Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbare enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était...
Salut, salut.
Ça va le Scooby Gang l'imaginaire?
Oui, ça va.
Là, on commence directement les privés de jokes et les auditeurs ne savent pas encore de quoi ça cause.
Coucou Romu. Non, mais comprendront dans quelques secondes avec notre premier titre musical. De quoi vous allez nous parler ce soir, Pierre-Marie et Karine?
Au hasard.
Karine et Pierre-Marie.
J'avoue, j'enfonce des portes ouvertes.
Ouais.
Mais je pense qu'on va parler.
Non, mais des fois, on parle série télé.
Oui, bien sûr.
On vous parlera de Dune, mais dans la prochaine émission, parce que. Avec la moitié de l'assaut qui l'a vu.
C'est encore trop frais dans nos esprits.
Ouais. Ok, super. Bon, de
livres. Je vais vous parler néanmoins d'un polar qui a été édité la première fois en 1995 aux éditions Albin Michel. Il s'appelle Un plan simple de Scott Mills. Alors, aux éditions du Typhon.
Moi, j'ai pas compris. T'étais né?
Non.
Et en deuxième partie d'émission.
Quoique, 1995. Alors, c'est mon année.
Tu parles de deuxième moitié d'émission, mais je ne suis pas d'accord avec toi.
Oui, il y aura
je
des trucs
des
très 1995.
Les émissions sont dédiées au Bélial et notamment à la collection Une Lumière.
Ah bah voilà.
Parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, mais Audrey est de retour parmi nous.
On va l'écouter
elle
dans quelques
partout,
minutes.
Vu qu'elle est sélectionnée à tous les prix, je pense qu'on va commencer à faire des overdoses d'Audrey Plenet.
Oh mais non.
Bon, elle va nous raconter ça parce que vous l'aviez interviewée aux Utopiales où elle avait reçu le prix des Utopiales.
Oui, tout à fait.
Voilà. Un plan simple, quand tu m'as dit je vais parler d'un plan simple, je me suis dit ah mais j'ai vu le film et tout, est-ce que c'est la même chose? Paf. Et donc j'ai été sur la page Wikipédia pour voir tout ça. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un célèbre groupe pop-punk qui s'était inspiré de ce roman, ou plus le nom du film, eux, pour piquer leur nom. Donc on s'écoute Simple Plan tout de suite, avec une chanson sur Scooby-Doo dans l'imaginaire sur le 100.5. Eh bien, avec le pop-punk, c'est que t'es déjà de retour à l'antenne sur le 101.5, une minute après. Simple Plan seront au Hellfest. Le groupe existe encore.
Mais il a des actualités, parce que du coup, ce soir, c'est le retour des actualités des années collège pour certains et des années école pour d'autres. Simple Plan,
il y a deux membres du groupe qui sont en tôle pour harcèlement sexuel. Voilà leurs actus.
Effectivement.
Rock'n'roll lifestyle. Voilà. Allez, Karine, c'est l'heure de ta chronique.
Oui. Donc, Un plan simple, c'est l'histoire de deux frères dans le Minnesota Hank est comptable dans une bonne situation. Oui, oui, petit clin d'œil à Pierre-Marie.
Un mec à la cool et franchement, je ne peux que conseiller les gens qui sont comme ça.
Donc, avec sa femme qui est enceinte, tout va pour le mieux, mais il est dans une certaine routine, sa vie semble tracée.
La vie de comptable.
Oui. Ah. Eh oui, c'est la vie un peu classique que tout le monde aime et tout le monde déteste à la fois.
Tout à fait, on devient comptable à 18 ans, on se marie à 20 ans, on a le premier enfant à 22 ans et le syndicat à 23 ans et à 30 ans, on finit par s'emmerder, quoi.
Si tu regardes le film, qu'on devient président d'imaginaire.
Entre autres, mais sinon, t'as un magnifique film sur la vie d'un comptable, ça s'appelle Mr. Wolf avec Ben Affleck et il devient un tueur à gages. Histoire de s'amuser un petit peu.
On pourrait faire une émission spéciale sur les films de comptables.
Tellement.
Ah, ça peut, ça peut. Donc, son frère Jacob erre de bar en bar avec son pote Lou. Il est complètement détruit par la perte de sa femme et de ses dettes. Donc, deux frères que tout
Il est détruit par la perte de ses dettes.
Mais il est détruit mentalement.
Ah non, d'accord.
Par les dettes. Il erre de bar en bar quand même. C'est un signe de désespoir. Et donc ce sont deux frères que tout oppose. La seule chose qui les rassemble, c'est une promesse qu'ils honorent à la demande de leur père suite à son décès. Celle de se recueillir ensemble sur sa tombe tous les ans, le 31 décembre. Une sorte de rendez-vous annuel. Et c'est lorsqu'ils sont sur le trajet avec Lou et le chien de Jacob qu'ils vont avoir un accident et que ce chien va s'enfuir au niveau d'une forêt enneigée. Au cours de leur recherche, ils vont tomber sur un avion et 4 millions de dollars. Bon, la suite est relativement prévisible. Trois hommes face à de l'argent qui répondra à pas mal de leurs besoins. Ça se dispute, personne n'est vraiment d'accord. Bref, l'affaire se clôt. Ainsi, ils vont garder l'argent. Et comme toute histoire d'argent, tout se complique. Mensonges, culpabilité ou non d'ailleurs, et rebondissement ou plutôt descente en enfer. Scott Smith nous décrit avec justesse comment un homme peut tracer un autre chemin du jour au lendemain pour de l'argent. Une spirale infernale qui ne cesse de les mettre à l'épreuve et on découvre tout ce qu'il y a de pire en l'humain. Je vous passe les rebondissements et la volonté toujours plus forte de garder cet argent à tout prix. Il développe et explore la psychologie de l'humain face à une meilleure vie, des rêves, des envies et interroge sur cette notion du bonheur lié à l'argent. L'auteur ne délaisse pas le contexte du récit puisqu'il nous offre une belle description des paysages désolés mais si fascinants de l'Ohio qu'il connaît si bien. Les descriptions sont enivrantes, on s'y croirait. Un roman tordu, teinté d'humour et une belle réflexion sur l'humanité et ses travers que je vous conseille évidemment. Scott Smith est un auteur et scénariste américain originaire de l'Ohio. Son roman Un plan simple a été adapté au cinéma par Sam Raimi.
Ouais, Monsieur Spider-Man et Evil Dead aussi longtemps avant. Et quand même, il y a eu du monde. C'est un film qui a mis énormément de temps.
Oui, oui.
Bah surtout, il a mis énormément de temps à être adapté parce que d'abord, on avait pensé à Mike Nichols. Après, c'est Ben Stiller qui devait le réaliser, quand même. Et puis après, c'était John Boorman. Et finalement, c'est Sam Raimi, mais genre 10 ans après, qu'a fini par faire ce film. Sans Nicolas Cage, qui était prévu aussi au casting. Et qui était trop cher, en fait, pour la maison de production à l'époque.
Ah oui. Donc, je vous invite à découvrir également son second roman, Les Ruines, publié en 2007 et adapté lui aussi au cinéma. Je vous laisse avec le groupe suédois In Flames. Et leur chanson Become One, qui a été un bonus de l'édition de luxe de leur dernier album, Forgone, et a été une petite surprise du mois dernier sur les différentes plateformes de streaming.
In Flames, donc, dans Imaginaire sur le 101.5, hein, c'est l'heure de la chronique de Pierre-Marie avant de retrouver l'interview d'Audrey Plenay. M'étant pris un petit taquet, je me permets un mea culpa, à savoir, lors de la dernière émission, j'ai fait la chronique de Sweet Harmony, un livre à la collection Une Heure Lumière, qui est le suivant de Barbare, de Rich Larson, aussi à la collection Une Heure Lumière. Oui, je ne chronique pas les livres dans l'ordre. Aussi, ne m'en voulez pas, c'est un retour en arrière, puisqu'il s'agit d'une nouvelle sortie chez Une Heure Lumière, donc, le 19 octobre 2023. Je l'avais lu parce que, à la base, Rich, on me l'avait annoncé comme venant aux Utopiales. Souvenez-vous, c'était l'occasion de le retrouver. Je l'avais déjà retrouvé aux Utopiales 2022, à l'occasion de la sortie de son roman Ymir.
Et on avait écouté l'interview, je crois, dans cette même émission.
Oui. Exactement. Et là, autant vous dire que, trouvant une novella écrite de Rich Larson, traduite de Pierre-Paul Durastanti, j'ai un peu sauté dessus quand même, faut pas déconner. Parce que je suis un grand fan de novella, je suis un grand fan de Rich Larson, et je suis un grand fan de la combinaison des deux. Mais de quoi que ça cause? C'est un truc barré. De toute façon, Rich Larson ne sait pas écrire d'autre chose que des trucs barrés. Et Pierre-Paul Durastanti ne sait pas traduire autre chose que des trucs barrés. Et plus ça peut être sadique avec le lecteur, plus il prend son pied, et je parle des deux à la fois. Là, on va suivre deux personnages, Yann et Ilborg. Souvenez-vous, dans Ymir, et dans son interview, comme il le disait, Rich Larson disait qu'il puisait énormément dans la culture à la fois germanique et anglo-saxonne, classique. Les noms aussi. Ce sont deux personnages, deux contrebandiers, qui passent leur temps à aller sur des animaux vivant dans l'espace. Si vous avez vu la série Ahsoka ou la série Rebelle de Star Wars, ça ressemble un petit peu à ces pergilles, ces sortes de grosses baleines de l'espace. Et ben là, c'est la même chose, sauf que ça s'appelle des nages vides. C'est tellement énorme que l'œil humain ne peut pas embraser la totalité de ce que c'est, un petit peu à l'image d'une fourmi qui ne pourrait pas savoir exactement à quoi ressemble un éléphant. Globalement, c'est décrit comme étant des sortes de baleines naviguant dans les courants de l'espace, si tant est qu'il puisse y avoir des courants dans l'espace, et sur lequel tout un écosystème naît, grandit et survit. Oui, il y a un écosystème sur le dos d'animaux vivant dans le vide intergalactique. Quand je vous disais que c'était barré, on commence bien. Nos deux personnages donc ont l'habitude d'aller sur ce type de créatures. C'est pas les seuls. Hein. Pas mal. On nous explique qu'il y a pas mal de personnes qui ont l'habitude d'y aller, mais ça reste quand même dangereux. Cet écosystème qui naît et qui vit sur le dos de ces créatures là est dangereux. Et du coup, finalement, il y a assez peu de personnes qui y va. Il y a eu une tentative d'exploitation de ces créatures là, mais le coût n'en valait pas les bénéfices. Aussi, on a laissé les contrebandiers jouer un petit peu leur vie et le sort pour essayer de rapporter quelque chose à vendre. Et puis, bon, ça reste quand même des créatures un petit peu protégées par la bonne conscience collective politique. Autant dire, pas grand monde. Nos deux personnes sont donc des contrebandiers et un jour, ils se font choper. Et seul l'un des deux va en prison. Il prend toute la responsabilité. Et à l'image de Ymir, on pourrait limite se demander si cette nouvelle-là est dans le même univers étendu, les prisons sont surpeuplées, un petit peu comme chez nous. Sauf que là-bas, ils n'ont pas trop de remords, les gardiens. Quand il n'y a plus de place, on en fait. En fait, on prend les gens, on leur coupe la tête, on garde leur capacité cérébrale et on les fout dans des bocaux. Si ça vous rappelle Futurama, c'est pas loin. Et mine de rien, ça prend beaucoup moins de place.
La place.
Exactement.
Après, il faut savoir bien ranger les bocaux aussi.
Ouais, c'est ça. Alors, Yana, puisque c'était sa faute, elle n'a pas fait attention à bien cacher les choses, est pleine de remords. Elle aimerait bien offrir un nouveau corps, une sorte d'androïde, sur lequel on posera le bocaux, et puis il pourra agir. Non, c'est pas exactement ça qui est dit, mais vous avez saisi l'idée. Et elle accepte une mission, parce qu'on lui demande de faire une mission sur un âge vide. Elle connaît cet environnement, elle connaît ce contexte, elle se dit,
pourquoi pas ? En vrai, il y a des risques, mais si je peux avoir un corps, un nouveau corps pour mon poteau, banco. L'idée de la mission, elle est emballée. Les commanditaires de la mission, beaucoup moins. Ce sont deux jumeaux, tellement jumeaux qu'ils s'appellent jumeaux X et jumeaux Y. Parce que c'est le même, en fait. C'est particulier. Oui, je vous ai dit, il écrit des choses un peu barrées, un peu bizarres. Et Pierre-Paul adore traduire les choses un peu barrées, un peu bizarres. Donc, ces jumeaux, X, Y, leur donnent une mission d'aller sur un nagivre précis. Pire que ça, un nagivre mort. Qui donc, pour toutes les ressources qu'il renferme, est exploité et surtout, il est en train de pourrir dans l'espace. Donc, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un petit peu comme aller sur une île avec un volcan en éruption. À tout moment, ça risque de s'effondrer. Et voilà. Et les jumeaux disent qu'ils veulent y aller aussi. Donc, nos contrebandiers qui devaient aller juste récupérer quelque chose se retrouvent en plus être des guides et des protecteurs. Sachant que je vous disais, sur les deux contrebandiers, il n'y en a qu'un seul qui peut se déplacer. L'autre, c'est une tête. Il a un peu de mal à se déplacer. Même si on nous explique qu'il y a quelques artifices mécaniques qui lui permettent de se déplacer un petit peu dans le vaisseau et surtout de communiquer. Mais bon, tout ça, c'est dans le bouquin. Le roman est extrêmement intéressant. D'abord pour le travail des personnages. Entre Yana et Hildeborg, on retrouve la même chose que dans son roman de Ymir, ce côté très... ce sont des personnes qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais qui en sont arrivées à se haïr. Yana adore Hildeborg, mais elle se hait elle-même de ce qu'elle lui a fait. Et elle a du mal à rester avec lui, parce que à chaque fois qu'elle est avec lui, elle voit ce qu'elle lui a fait. Et elle a beaucoup de mal avec ça. Hildeborg est quelqu'un de très froid. Il ne lui reproche pas ouvertement ce qui est passé, il ne veut juste pas en parler. Les choses sont comme ça, et il ne veut pas vivre avec l'espoir d'avoir plus tard un nouveau corps. Il est comme ça, il vivra comme ça, et tant pis. Et les jumeaux sont juste des gens atroces, mais très polissés. Des vrais barbares sous le vernis de la civilisation. C'est un roman qui est très intéressant parce que il n'y a, à part ce personnage de Yana, il n'y a rien qui nous rapproche avec ce qu'on pourrait avoir l'habitude de faire. C'est pour ça que c'est un roman qui est extraordinaire sur le principe de la science-fiction. C'est d'ailleurs pas vraiment de la science-fiction, c'est même pas du space opéra, c'est du planète opéra. Ça se passe sur une planète, même si c'est une créature. C'est l'archétype pur de ce que cherche à faire la collection Une Heure Lumière, pas toujours réussi, en tout cas dans cet objectif-là, à savoir écrire le demain et surtout le écrire ailleurs. Comme une célèbre collection qui, je crois, a disparu ailleurs et demain.
Ok. Et on passe au choix musical de Pierre-Marie.
Alors, je vous l'avais promis, et c'est à la fois une spéciale dédicace pour les oreilles de Romain et de Karine ici présents, mais aussi pour Audrey Plenet, qui ne peut pas vivre sans cette musique.
Dont on écoutera l'interview dans quelques minutes. Et si vous voulez mettre des taquets à Pierre-Marie sur ses choix musicaux, vous pouvez nous retrouver sur le chat.
Attends, 5 secondes. Pierre-Paul, écoute ça de tes grandes oreilles et le fond à son, ça va te plaire.
Trop beau.
Mais y'a qu'à toi que j'peux m'confier. Tu sais, j'viens parano des fois quand j'ai. ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou. Je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé.
Je peux pas oublier le passé. Oublier le passé. T'étais mon chouchou. Je peux pas t'effacer.
T'es la plus belle des étoiles parmi les autres, je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il me reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. Je sens que tu caches quelque chose, c'est bon, me mens pas. T'es plus du tout comme avant, je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais que parfois je suis con, mais je reste le premier dans ton cœur. Si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Je sais que le passé, c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois, quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais reconnaître ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé.
Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante.
Merci Pierre-Marie.
Alors, il y a un élément que j'avais oublié de préciser. À ce jour, cette nouvelle-là de Rich Larson, donc collection Une Heure Lumière, édition du Bilial, est une exclue française. Elle n'est toujours pas parue en anglais.
Oh.
Oh. Sinon, ben... Yanns, c'est le nouveau Yannick ou...
Je ne connais pas, mais il y avait un pari et je suis quelqu'un d'extrêmement débile. Quand on me fait un pari, je le fais.
Il y avait un pari.
Bah oui, oui, bien sûr. Ah.
En tout cas, on est content de savoir que on a trouvé la version karaoké de cette belle chanson. Allez, on passe à l'interview d'Audrey Pléné que nous avions enregistrée quelques heures après son sacre aux Utopiales. Oui. On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Bonjour, toujours aux Utopiales 2023, fin de la première journée, et quoi de mieux que de finir avec l'autrice la plus mise en avant du salon, Audrey Pléné. Bon, on ne présente plus Audrey Pléné parce que c'est un petit peu le pilier de comptoir de Imaginaire, à mi-chemin avec deux ou trois autres auteurs, mais... Les Utopiales, l'année dernière, tu es venue visiteuse, t'as quémandé ton passe. Cette année, tout le monde te veut et pour cause, tu as le prix Utopial 2023. Bravo, félicitations.
Merci.
On l'avait dégoté en avance. Souviens-toi, tes premières parutions, et j'amplifie un peu, sont chez nous.
Oui.
Tu es novelliste à la base. Tu as tenté un essai vers une grosse novella, un petit roman. Mm-hmm. Avant de te dire, non, finalement, trop de travail, je vais rester sur la novella. Et d'ailleurs, sorti dans une maison d'édition réelle, qui a des moyens et surtout qui a des exigences, ils t'ont repéré, ils t'ont adoré. Et tu es primé.
Oui.
Qu'est-ce que ça te fait?
Ça me fait énormément de choses. Je suis sur un petit nuage complet, déjà sur l'annonce de la sélection qui était, je sais plus, en juillet dernier, et puis l'annonce du résultat il y a 2-3 semaines. C'est juste incroyable, en fait, le truc que je pensais pas du tout qu'allait se passer quand j'écrivais le texte. Je suis sur un petit nuage. Déjà, j'étais très contente de l'accueil fait au livre en général par les lecteurs, tout simplement, et qu'il soit sélectionné et puis primé, c'est juste ouf. C'est incroyable.
De ce qu'on entend, c'est vraiment un livre qui a un accueil phénoménal et je trouve que tu es dans l'euphémisme. Il y en a même qui te donnent un prix Ronnie Aîné pour ce bouquin-là.
Oui, non, ça c'était une erreur.
C'est une anticipation.
Voilà, c'est une anticipation.
Qui t'a parlé du prix Ronnie Aîné, c'est l'année de tous les succès. Tu as aussi le prix Ronnie Aîné cette année.
Oui, j'ai eu le prix Ronnie Aîné cet été en août pour une nouvelle, donc dans la catégorie nouvelle, pour une nouvelle encore 5 ans.
qui est paru dans le Bifrost de juillet 2022, puisque le Rognéné donne le prix pour les parutions de l'année précédente du prix.
Bien sûr, mais ce qui est important de parler sur cette nouvelle-là, donc encore 5 ans, c'est que c'est une nouvelle qui a nécessité énormément de travail, oui, et surtout de retravail,
oui,
et toujours sous la houlette de la même directrice d'édition.
Oui.
Directrice d'édition.
Directrice d'ouvrage.
Directrice d'ouvrage pour toi, au Bélial.
Oui.
Donc il y a vraiment ce côté, cette symbiose qui est faite entre toi et son petit prénom.
Laetitia Arnaud, mon éditrice.
Et à qui tu voues une relation d'amour-haine assez farouche pendant les petits moments.
Voilà, exactement. Très fusionnelle entre mon éditrice et moi. Mais c'est la volonté en fait du Bélial, et c'est la façon dont ils procèdent. Pour prendre des nouveaux auteurs et autrices, ils les font entrer par le côté de la nouvelle et de Bifrost, qui est de toute façon le magazine autour duquel s'est constituée la maison d'édition du Bélial. Donc la première étape, c'était une nouvelle au Bifrost. Donc elle m'avait appelée parce que repérée par rapport à mes autres titres et nouvelles dans différentes anthologies, dans scène d'imaginaire. Voilà, nombreuses. Et donc là, c'est la première étape. Et une fois que le texte était passé sur cette étape de sélection, il y a eu le travail ensemble d'édition. Et ça permet également à l'éditrice et aux éditeurs autres de voir comment on travaille ensemble, en fait. De voir quelle est la méthode de travail ou le potentiel qu'il y a également derrière. Et ensuite, quand il y a eu cette étape de la nouvelle dans Bifrost, là, on a parlé un autre texte un peu plus long, plus exigeant. Moi, j'étais en train d'écrire la novella et ça, c'était l'étape un peu naturelle suivante avec le Bélial.
Tu vas un peu vite dans ton explication. Ah, tu dis qu'au moment où tu as ta nouvelle qui sort, donc encore 5 ans, tu es déjà en train d'écrire ta novella.
Oui.
Cette écriture-là, cette novella en gestation, c'est celle qu'on retrouve Rossignol ?
Oui.
Exactement.
Non, exactement. C'est-à-dire que quand on m'a demandé si j'avais quelque chose dans les tiroirs, novella ou roman, et que j'ai dit que j'avais une novella en cours d'écriture, elle était vraiment en cours d'écriture. J'étais peut-être à 2/3 de l'écriture, donc c'est quand même bien entamé, mais on était loin d'un premier jet final. Donc j'ai eu encore quelques mois pour le finir, puis je l'ai pitché, puis je l'ai envoyé. Enfin, j'ai encore fait un premier travail en autonomie, puis je l'ai envoyé. Et ensuite, quand Laetitia Rondeau l'a lu, énormément apprécié et sélectionné, et ben là, il y a eu un deuxième travail éditorial dessus. Et donc le texte a évolué, oui, mais plus du travail de dentelle, en fait. Il n'y a pas eu des grosses coupures, il n'y a pas eu des gros changements de direction. Ça a été vraiment un travail un peu plus minutieux pour mieux le ficeler.
Et tu dis que tu as présenté donc cette novella déjà retravaillée par toi, une première mouture qui était une sorte de premier jet, qu'elle a lu, qu'elle t'a fait retravailler.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu une volonté de la part de Bifrost, parce qu'ils ne sont pas aussi directifs que ça, mais une intention sur certaines thématiques ? Est-ce qu'ils t'ont guidé sur des choses ou tu étais vraiment libre ?
J'étais quand même un petit peu plus libre. C'était plutôt l'exigence par rapport au format de la novella. Donc, elle était un peu trop longue, donc il a fallu raccourcir un petit peu. Il a fallu également, la novella, c'est pas juste une question de taille, en fait. C'est aussi le rythme doit être différent. Il doit être justement très rythmé. Il doit pas y avoir de ventre mou au milieu du texte. On peut pas se le permettre parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Et le lecteur qui le lit parfois en une séance, il y a des gens qui l'ont lu d'une traite, mais en au moins 2, 3, 4 séances de lecture, on a cette chance d'avoir un lecteur qui va être avec nous sur un temps hyper court, donc on en profite sur une novella et on amène vraiment le lecteur par toutes ces étapes de construction du world building et puis après de sentiments, d'empathie avec les personnages jusqu'à un big reveal et une grosse fin. Donc on a juste, voilà, ça c'est ce qui a un peu retravaillé le rythme parce que le format l'exigeait. Sinon, l'exigence du Bélial qui est sur de la science-fiction, c'est que on soit vraiment sur quelque chose de très solide sur l'aspect scientifique. Ce qui était moins prégnant peut-être sur Rossignol, mais en revanche sur Encore 5 ans, ça avait été la plus grosse partie du retravail de la nouvelle. C'était qu'on soit vraiment sur quelque chose qui soit très carré, très solide sur les aspects scientifiques de mon intrigue. Et là, il m'avait vraiment poussé dans mes retranchements pour présenter quelque chose de très abouti.
revenons sur la gestation de cette novella, donc de Rossignol. Tu dis que le Bélian n'attendait pas quelque chose de thématique par rapport à toi, que tu étais libre, hormis le format. Ce qui veut dire, on a déjà eu tout, puisque tu as été édité en mai 2023, pour Imaginaire 2023, bon, je dis pour, mais avec des gros guillemets, mais l'avant-première, c'est fait par nous. On a eu toute une avant-première qu'on a fait pour décortiquer un peu ce roman, avec des points de divergence ou...
D'interprétation.
Très bien. Mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les thématiques que tu y as mis. L'entraide, l'entre-soi, ou alors l'ouverture aux autres, la filiation, la transmission, tout ça, ce sont des thématiques que toi-même tu y as apportées, si tu me dis que le Bélial ne te les a pas demandées. Pourquoi ces thématiques ?
Ok, alors, pour la petite histoire croustillante, j'avais envoyé auparavant un autre manuscrit complètement différent, non publié d'ailleurs à ce jour, à une autre maison d'édition, et le retour ça avait été que c'était très bien, que c'était rythmé, qu'il y avait de l'action, mais que ça parlait pas beaucoup de la relation à l'autre. Et je me suis vexée comme un pou, parce que c'est un peu mon travail autre, en fait, qui me nourrit. Je suis dans le travail social, humanitaire, sur la question de l'accueil de l'autre, l'attention à l'autre, l'empathie, le soutien, l'entraide, etc. Et de ce moment un peu vexant d'avoir un tel retour, eh ben, j'ai ouvert mon ordi, j'ai ouvert un doc Word, et j'ai commencé, voilà, tu dis, tu veux la relation à l'autre, tu veux avoir la relation à l'autre. Je vais mettre tout ce que j'ai sorti de mes expériences professionnelles en humanitaire, dans le social, dans la grande précarité, dans tout ça, je vais faire vraiment tout ce que j'ai pu apprendre, je vais le balancer et je vais explorer tous les aspects de cette rencontre de l'autre. L'autre qui est différent de nous parce que extraterrestre, enfin en l'occurrence, donc très éloigné de nous. L'autre qui est notre parent, notre enfant, qui est le parent, c'est le premier autre qu'on rencontre, et l'enfant, c'est l'autre qu'on crée soi-même, donc c'est quand même quelque chose. Et voilà, et je vais tout mettre là-dedans, et la question de la transmission aussi, parce que c'est ce qu'on fait en fait avec les autres, on transmet, on déteint, on absorbe, enfin, c'est cet échange en fait qui est intéressant, plus que l'échange de technologie par exemple. Donc voilà, c'était vraiment venu de mes expériences pro et personnelles également, cette question de filiation plus familiale, que j'ai voulu mettre dans cette thématique. Il y a quand même, malgré tout, un grand aspect scientifique à Rossignol, science fictive, avec cette station qui a des paramètres technologiques qui s'adaptent aux différentes espèces. Voilà, c'était de là que venaient les deux grosses thématiques.
Mais est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ou c'est plus une altérité fiction ?
Oulala, t'as inventé un mot, un concept, un sous-genre, attention ! L'essence d'un nouveau sous-genre de la SF. Alors, moi, on m'a plutôt catégorisé en soft science fiction, c'est-à-dire que je fais de la science-fiction plutôt sur les sciences sociales. Donc les sciences soft.
Les sciences molles.
Voilà, les sciences molles. Mais c'est bizarre en français, molles. Donc sur la sociologie. Voilà. Donc oui, c'est j'essaie de combiner les deux.
Fort de ce succès, tu n'en as pas fini avec le Bélial, puisque tu travailles actuellement sur un autre texte. Est-ce que tu peux en parler ?
Spoiler ! Non, je travaille, je continue avec le Bélial parce que c'est aussi ma volonté, moi, de grandir au sein de la maison d'édition, et mon lien de travail avec l'éditrice est fort et me donne envie de continuer à travailler. Donc, je ne peux rien dire pour l'instant, mais oui, il y a d'autres textes en gestation.
Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toi, tu appréhendes ces autres textes plutôt que qu'est-ce que sont ces autres textes.
Je les appréhende avec panique.
Et du café, te connaissant.
Et du café.
Mais Rossignol est encore 5 ans, il y a eu des attentes de toi sur une perfection de ton travail d'écriture, mais pas forcément sur une thématique en tant que telle. Mm. Est-ce que là, tu repars sur la même chose, la même liberté, où on te dit... Quoi travailler ? Est-ce que t'es beaucoup plus dirigé ?
Ah non, j'ai quand même j'ai toute la liberté que je veux sur les thématiques. Il n'y a pas de souci. Au contraire, je pense qu'il y a la volonté de mon côté et du côté des éditeurs d'avoir quelque chose de différent, d'aller au bout dans le panel de thématiques que je peux aborder, de pas faire exactement la même chose, au contraire, de me diversifier. Donc ça, c'est aussi...
Tu laisses tomber un peu l'altérité et tu passes sur quelque chose un peu plus factuel.
Non, il y aura toujours... l'altérité sera pas au centre, les relations, de toute façon, entre les personnages, oui, bien sûr. La prospective sociale, l'anticipation sociétale, oui, totalement, parce que c'est beaucoup plus mon créneau, mais ça reste un créneau encore assez large pour y faire quelque chose de différent de Rossignol.
Tu nous as dit que pour Rossignol, tu étais arrivé avec une idée, avec un roman qui était génial, mais qui n'avait pas d'altérité dedans. et puis qu'il t'avait été refusé par cette maison d'édition, ouais. Ce qui a poussé à te faire créer Rossignol. Tu as déjà donc créé ton livre sur l'altérité en tant que tel. Ouais. Tu pars sur d'autres écritures. Qu'est-ce que tu vas y mettre? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient directement, ou c'est tenter quelque chose et tu attends cet autre coup d'ego pour repartir sur une autre idée?
Non. Là, pour le coup, je suis un peu plus. J'ai déjà plus des idées, des thématiques et des sous-thématiques. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir le coup, le mal à l'ego.
Donc, t'as des DL, tu paniques, tu prends ton café, tu te mets devant ton ordinateur, tu écris et tu jettes, et puis tu refais un truc.
Non, je pense qu'on essaiera de moins gâcher les heures d'écriture, parce que j'en ai peu, donc il va falloir aussi que je gère mieux mon temps également et être plus tout de suite sur les bons rails.
Et qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces auteurs qui disent que leur vie professionnelle ou leur vie personnelle n'ont pas à intégrer ou à interférer avec leur vie d'auteur, d'écriture? Toi, tu as l'air de tout mêler.
Oui, ils peuvent ne pas les mélanger du tout et cloisonner à fond, hein, y a pas de souci. Mais il y en a qui le font et qui le font très très bien. Moi, j'ai besoin peut-être pour être plus légitime et authentique. D'être sur des choses que j'ai sur un certain vécu, en tout cas de puiser dans ce terreau de vécu. Et c'est vrai que les retours que j'ai eus, certaines personnes ont même su voir dans Rossignol les apports vraiment quasiment purs que j'ai pu apporter vraiment de ma vie perso. Donc ça se voit, parce que cette authenticité, elle se voit en fait, et elle se ressent. Et je pense que c'est pour ça que c'est important aussi peut-être de puiser là-dedans.
Donc si jamais je veux un nouveau genre de roman écrit pour Audrey Plenet, il faut que je te trouve un nouveau boulot dans un autre domaine.
Voilà, c'est ça, exactement.
Je prends note. Bon, quels sont tes projets futurs avant de passer au portrait chinois?
Pour l'instant, rien de trop défini. Quelques nouvelles par-ci, par-là. L'écriture de Rossignol a été très prenante et très... je dirais pas exigeante, mais ça m'a demandé vraiment un énorme effort, une énorme énergie en fait. Et ça, voilà. Et je pense, même si j'ai effectivement fini l'écriture de Rossignol depuis un moment, je suis encore en train de m'en remettre, je pense. Donc j'attends en fait aussi que ma plume se fasse sa petite cure de désintoxication du format Rossignol, de la voix qu'il y avait dans Rossignol pour repartir sur d'autres choses. Voilà. Donc pour l'instant, je lis, je m'inspire, je lis des BD, je lis des romans. Voilà.
Petit portrait chinois.
Ouais.
Très bien.
C'est parti.
Un animal de compagnie. Je t'offre l'animal mythique de tes rêves qui sera ton animal de compagnie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera gentil avec toi.
Un animal mythique de compagnie.
Ouais.
Je pense au chat de Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il a l'air un peu taré, je pense qu'on peut pas s'ennuyer avec, et ça fait une bonne compagnie.
Improbable, mais très bien. Tu sais que tu risques de perdre parce qu'il sera invisible. Hein.
Oui, je sais, mais ça peut être super rigolo, justement.
Dans le cadre des recherches pour ta prochaine œuvre majeure, puisque tu vas enchaîner les prix, tu as la possibilité d'échanger, de discuter pour t'inspirer avec un dieu. Quelle que soit la mythologie.
Hera, je sais pas pourquoi, c'est le premier nom qui me vient. Ouais, parce que c'est une figure féminine, forte, maltraitée, je pense, par les récits, qui a une autre version d'histoire à raconter.
Maltraitée et maltraitante envers les humains.
Ouais, mais ouais.
Très bien. On part dans Star Wars un petit peu. Je sais que tu es une énorme fan de Star Wars. Je t'emmène sur la planète de ton choix, vivre un an avec l'espèce que tu veux, avec le peuple que tu veux.
Han Solo, c'est pas une espèce en lutte
en lui-même. Toute une planète d'Han Solo, ça serait compliqué à gérer.
Non, j'aimerais bien beaucoup me retrouver seule avec lui un moment.
Tu peux être sur le faucon au Millennium.
Bah, il m'a dit une planète, mais si je peux être sur un vaisseau.
C'est pas tout un peuple, mais très bien.
Voilà, un petit tour.
Donc, juste avec Han Solo ou Harrison Ford?
Y a-t-il vraiment une différence?
Il y a eu un autre Solo.
Oui, non, Harrison Ford. Le Harrison Ford, de Han Solo, Harrison Ford. Sur le Faucon Millenium.
Quelle musique veux-tu pour clore cette interview?
Alors, je vais prendre Lose Control du groupe H, de l'album 1977.
Merci. Toujours un très grand plaisir de te voir, et encore félicitations pour ce prix amplement mérité.
À la prochaine.
À la prochaine. Et bon café.
Merci.
C'était le choix d'Audrey Plenet.
Ouais, d'ailleurs, vous remarquez quand même son bon goût avec des gros guillemets.
Ouais, c'est bien. J'aimais bien ce groupe, moi, dans les années 90. On va en parler des années 90 dans quelques minutes, parce qu'on va parler de l'Angers Geek Fest. C'était sur leur album. Alors lui, ça s'appelait 1977, mais il était sorti en 96. C'est une gameuse, Audrey Plenet, parce que c'est aussi un morceau qui s'est fait connaître par la BO de GTA.
Ah bah en 97, oui, elle avait largement l'âge pour jouer à GTA, donc il y a moyen qu'elle l'ait connue à ce moment-là.
Alors, qu'est-ce qu'on avait annoncé, nous, imaginaire?
Alors, en fait, on a beaucoup de choses à annoncer, puisque notre salon est quand même, mine de rien, dans 2 mois et demi, et qu'on a décidé qu'un salon, c'était un petit peu pas assez pour nous occuper tous. Donc, on s'est blindé, mais vraiment blindé, toutes les 2 semaines, il y a un truc. On est parti. La première date est donc le 26 mars, une table ronde. En fait, en lien avec l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest, l'association a mis en place un cycle de conférences sur l'intelligence artificielle, notamment à l'initiative de Pierre Chauvel, directeur de la chaire de Data Science de l'UQO. L'Université d'Angers aussi souhaitait faire des tables rondes en lien avec Imaginaire sur, l'intelligence artificielle. Et donc, on a décidé de faire tout un cycle de conférences. D'abord à destination des étudiants, puisque vous le verrez sur les jours et sur les dates et sur les heures. Mais en fait, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Donc, si vous êtes libre et intéressé, venez, sachant qu'en plus, il y aura sans doute une captation sonore pour des diffusions plus tard. Première date, je vous disais, donc, c'est le 26 mars. C'est un mardi soir de 18h à 20h, comprenant une heure de table ronde et puis les échanges à la Cato. Et c'est sur donc l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT et les nouveaux usages professionnels. C'est donc avec la chaire de Data Science et c'est très très lié à la programmation et l'utilisation de ces outils, l'intelligence artificielle. Le dimanche 7 avril, pendant l'Angers Geek Festival sur lequel nous serons, et il y aura une deuxième table ronde, pour l'instant je finis mon cycle, le 7 avril, ça sera donc le dimanche de 15h à 16h, l'intelligence artificielle, un rêve devenu réalité, puisque c'était en 95 que les recherches ont permis la création de ce qui allait devenir plus tard l'intelligence artificielle. Le 16 avril, c'est un mardi soir, et cette fois-ci à l'Université d'Angers, campus Saint-Serge, toujours de 18h à 20h, ça sera sur l'intelligence artificielle par l'approche éthique et juridique. Et le mardi soir 30 avril, cette fois-ci sur le campus de Belbeil, quand l'IA parle entre linguistique et mimétisme. Quatre tables rondes sur l'intelligence artificielle, toutes les deux semaines, comme je vous le disais. Le 6 avril, cette fois-ci le samedi, pendant l'Angers Geek Festival, une table ronde sur l'urban fantasy, puisque Romain, tu vas être accompagné de deux auteurs et une docteure en littérature, sur la figure du vampire.
Notamment jusqu'aux années 90.
C'est ça, le point de bascule entre le prédateur,
si on veut,
prédateur jusque dans les années 90, et puis après le héros romantique, ou en tout cas l'anti-héros romantique. Souvenez-vous de Twilight.
On dit avec qui, non?
On peut donner les participants. Alors, pour les tableaux sur l'intelligence artificielle, il y a toujours trois intervenants, mais un seul avec une étiquette auteur. Donc pour le 26 mars, on retrouvera avec plaisir Olivier Paquet. Pour celle du 7 avril, on retrouvera au hasard, avec grande surprise, promis, elle aura les pompons, c'est Audrey Plenet qui sera là, et surtout Florestan Demour, un auteur de chez Critique. Pour celle du 16 avril, a priori Jean Barré, et donc sur la partie juridique, et celle du 30 avril, ça sera Frédéric Landragin sur comment parlent les robots de chez Le Bélial, exactement.
Où il écrit plutôt des essais dans la collection Parallax.
Tout à fait. Et pour la tienne, le 6 avril?
Eh ben, on aura la doctorante Céline Grégu, qu'on avait rencontrée en fait la première fois à une table ronde à l'Université d'Angers. On va faire un peu la suite en fait de cette table ronde. C'était sur le corps à l'époque, parce qu'elle a fait une thèse sur la figure du vampire masculin.
La figure du mâle.
Voilà, si on veut.
Parce qu'elle ne fait pas que le vampire, mais le vampire a quand même...
On parlera aussi de la figure du bien, alors. Et puis, Clément Bouhélier, aussi, de chez Critique, qui sortira un roman où on retrouve des vampires juste à ce moment-là. Et puis, on aura aussi Louise Lebar, des ex-éditions Noir d'Absinthe, qui a écrit quand même deux romans où les vampires sont assez importants. Voilà.
Tout à fait. Et puis, notre salon qui approche à grands pas, mais on a plein d'autres émissions pour vous donner des informations.
Ouais.
Sans compter, mais j'ai pas fini, puisqu'on a aussi d'autres dates, parce que au risque avec tout ça, on avait peur de s'ennuyer un petit peu. Le 10 avril, il y a la présentation ouverte au public à la Bibliothèque Toussaint, la présentation des coups de cœur et livres primés de l'imaginaire par l'association. Donc, les sociétaires vont faire des présentations des livres primés sur les prix littéraires de l'imaginaire 2023, et puis le coup de cœur 2023 et début 2024. Et dimanche 14 avril, c'est Club Abdo, donc on peut pas en parler.
Enfin, ouais, non, c'est pas ouvert.
Il se passe rien le 14 avril.
À moins qu'il reste des places, mais c'est en priorité pour le Club Abdo de la médiathèque Toussaint.
Si vous faites partie du Club de la médiathèque Toussaint, nous faisons des tables de jeux de rôle.
Mais justement, je sais pas si tu l'as noté, le samedi d'après, donc qui sera,
21,
je ne sais plus.
Le 21 à Belbeil.
Voilà, il y aura deux maîtres du jeu de l'association Imaginaire dans le cadre des samedis dont vous êtes le héros, qui sont des samedis après-midi, à la médiathèque de Belbeil, on va dire, d'initiation au jeu de rôle. Et on ne sait pas encore exactement, mais on vous dira ça, ce qu'on fera jouer. Voilà. C'est tout pour l'agenda ?
C'est déjà pas mal, je trouve.
Ouais. Il y a aussi d'autres projets, il se passera peut-être d'autres choses avant cet été côté Imaginaire, mais on vous en reparlera.
On aime beaucoup le teasing, je ne sais pas si ça se voit.
Ouais. Bon, et
Si. À partir de la prochaine émission radio, nous allons mettre en place le jeu pour gagner des entrées Angélique Fest. Deux places à gagner par émission sur chacune de nos émissions jusqu'à l'Angers Geek Fest. Et pareil, la soirée du 26 mars, il y aura deux places à gagner pour l'Angers Geek Fest.
C'est parfait. Donc, rendez-vous dans deux semaines. On espère qu'on vous parlera de Dune quand même.
Et de deux.
Voilà. Allez, on termine un petit peu. Il y a eu beaucoup de rock dans cette émission. On va terminer un peu avec du Dungeon Synth. Enfin, lui, il appelle ça du Transcendental Synth. Il est un petit peu mystique, ce monsieur, c'est Path of the Eternal, il nous vient du Minnesota. Oui. C'est là que un plan simple a été tourné, le film de Sam Raimi, par exemple. Et oui, il a bouclé. On fait bien les choses dans cette émission. Et on s'écoute un extrait de son album Quest for the Sacred Blade, je vous avais dit qu'il était un petit peu mystique, avec le morceau Altar of the Sacred Blade. Et donc, on se donne rendez-vous dans deux semaines dans Imaginaire sur le 101.5.
Bonne fin de vacances.
Bisous.
FM.
Skin. Just when you turn, let me begin.